Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Et cet après-midi, on s'intéresse aux bienfaits de l'improvisation. Si vivre nous pousse par essence à improviser, comment affronter ces temps incertains qui nous conduisent à s'organiser à la hâte, au jour le jour, sans horizon clair? Comment se couler dans cette existence qui nous oblige à improviser constamment, à s'adapter sans préparation? Nous verrons comment se mettre en condition pour improviser dans l'incertitude, comment réduire l'angoisse quand il est difficile de planifier à court et moyen terme. Et puis nous verrons comment l'improvisation peut enchanter nos vies. Pensez à ces soirées, à ces dîners, à ces voyages, à ces fêtes organisées à l'improviste. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali Rébéi.
Rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. Bonjour Cécile Guéret, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute à Tours, auteur du blog La Psy Buissonnière, et vous avez récemment publié Aimer, c'est prendre le risque de la surprise. Bonjour cher Didier Pourquerie.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste, ancien directeur adjoint de la rédaction du Monde. Vous êtes actuellement président de l'excellent site The Conversation France et président de Cap Science à Bordeaux. Et vous avez publié chez Folio Un petit éloge du jazz. Bonjour Jeanne Chartier. Bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes comédienne et improvisatrice professionnelle. Vous nous donnerez tout à l'heure des conseils pour improviser en famille ou entre amis. Improviser, nous dit le dictionnaire historique de la langue française, vient de l'italien improvisare, qui signifie qui arrive de manière imprévue. Dans son premier emploi, le verbe improviser signifiait chanter ou composer sans préparation, et par extension, improviser s'emploie pour organisé sur le champ à la hâte. Alors Martin Legros, depuis le début de la crise sanitaire, on improvise tous à divers degrés avec plus ou moins de bonheur.
Oui Ali, vous l'avez dit, et je crois qu'il y a une distinction centrale que vous avez introduite dans votre présentation, qui est la distinction entre deux concepts, celui d'improvisation et celui d'adaptation. Il me semble qu'on navigue entre les deux, que l'un nous pèse, mais que nous pourrions nous profiter de l'autre, l'improvisation, dans cette situation. Je m'explique. En effet, on est dans une situation totalement contrainte, et on pourrait croire que dans cette situation totalement contrainte, nous n'avons qu'à nous adapter, c'est-à-dire à réduire nos libertés, à nous conformer aux exigences, aux injonctions sanitaires, et que donc, il n'y a que de la restriction. Je crois que c'est pas tout à fait exact, et que quand on regarde la vie des individus, des personnes depuis un an, on se rend compte qu'en réalité, dans un contexte de contrainte très très fortes, elles ont été amenées à réaménager toute une série de choses, que ce soit dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans leurs organisations, qui ont fait qu'elles ont peut-être trouvé là des nouveaux modes de faire, des nouveaux modes d'agir et de penser et de sentir, et que ça a pu être une ressource. Et un signe de ça, je trouve, c'est par exemple sur le télétravail. J'ai été en contact avec plusieurs grandes organisations qui s'interrogent sur la manière dont réorganiser le travail, et ce qu'elles disent toutes, c'est que elles ont découvert par exemple que le télétravail travail qu'elle redoutait, elle se disait, les travailleurs en télétravail, ils vont rien faire chez eux, ils vont glander. C'est pas du tout le cas, ils travaillent peut-être davantage même. Mais surtout que les travailleurs eux-mêmes ont découvert à cette occasion que, sous une contrainte, en un sens, il y avait peut-être pour eux une ressource. Et là, ça nous a fait penser que, bien oui, il y a peut-être l'improvisation qui vient d'un concept, vous l'avez dit, musical. Et l'improvisation, c'est quoi? C'est pas la liberté, c'est pas le chaos. C'est sous régime de contrainte, avec des règles et une expérience très très forte, être capable de puiser dans l'incertitude de la situation, pour faire surgir des nouvelles formes. Eh bien oui, il y a peut-être dans notre situation matière à improviser.
L'honorable Didier Pourquerie acquiesce.
Oui, en effet, parce que, par exemple, dans la musique classique, dans la musique baroque, par exemple, déjà, il y avait de l'improvisation. Et d'ailleurs, les grands interprètes étaient censés savoir improviser. À l'intérieur d'une grille. Quand on regarde ce qui se passe dans le jazz, en fait, on pourrait dire que l'improvisation, c'est l'exploration de l'harmonie. L'harmonie, c'est un certain nombre de grilles d'accords, hein, d'accords harmoniques, et l'improvisation se situe à l'intérieur de ces grilles. Après, on pourra en reparler, il y a des figures de l'improvisation, mais c'est en effet à l'intérieur d'un certain cadre. Et quand même en musique classique, quand un grand interprète, à la fin d'un concerto de Mozart, fait ce qu'on appelle une cadence, hein, c'est-à-dire qu'il va improviser des notes à la fin du concerto, eh bien, c'est à l'intérieur, évidemment, d'un cadre très particulier, mais mais il crée autre chose. Et il crée autre chose à tel point que certaines cadences mozartiennes ou de sur Beethoven sont devenues des morceaux. De la même façon que certaines improvisations d'Ella Fitzgerald sont devenues d'autres morceaux parce qu'ils ont été repris par Charlie Parker, etc. Donc c'est un cadre. Et c'est à l'intérieur d'un cadre, jouer avec l'harmonie, et ça me plaît bien, cette idée de jouer avec l'harmonie.
Jeanne Chartier, ça vous parle, cette idée de qu'on improvise toujours dans un cadre ?
Alors oui, c'est un petit peu la base de l'entraînement de l'improvisation, c'est nous donner une contrainte à la base et trouver la liberté dans cette contrainte, en tout cas quand c'est de manière théâtrale, c'est comme ça qu'on le pratique. Après, de plus en plus, l'improvisation a trouvé une vraie place dans l'art théâtral aujourd'hui. Ça a été longtemps vu comme un sous-art, malheureusement, comme quelque chose qu'on utilise comme un simple training pour des comédiens qui auraient du texte par la suite. Et aujourd'hui, je pense que le public, mais même les comédiens professionnels, retrouvent ou trouvent tout simplement un vrai bonheur à improviser en se disant qu'il y a une liberté telle dans le lâcher-prise et dans la création que permet l'improvisation théâtrale que effectivement c'est si ample qu'il n'y a que du plaisir à l'essayer.
Racontez-nous, Jeanne Chartier, ce plaisir, ce bonheur d'improviser.
Bah déjà, il part du fait que pour nous, improvisateurs, improvisatrices, c'est l'art du moment présent. Donc pour moi, il n'y a rien de plus merveilleux que ça dans une vie, de vivre chaque moment comme si le présent était le plus merveilleux. Donc c'est ce qu'on rappelle quand on fait des ateliers autour de ça. Et puis c'est aussi beaucoup d'acceptation d'une situation telle qu'elle est posée, telle qu'elle est donnée, soit par le public, soit par quelqu'un qui nous donne une contrainte. Et puis à l'intérieur, de trouver dans son imaginaire des endroits où on va s'amuser, rire, être ému. C'est aussi dans l'improvisation une très belle notion d'écoute, écoute de l'autre, bienveillance de sa proposition, amélioration de sa proposition et non pas critique. On est vraiment dans quelque chose qui est très agréable à vivre et à imaginer. Et puis aussi, on travaille énormément ce qu'on appelle, et ce qu'on a déjà entendu là, le lâcher prise. Donc cette notion de tout est possible à partir du moment où on le veut et on y croit.
Martin Legros.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Je voudrais juste que les auditeurs ne se disent pas que l'improvisation s'est réduite au domaine esthétique de la création. Je crois que c'est en réalité beaucoup plus vaste. Et quand on y réfléchit bien, en réalité, dans la vie quotidienne, nous sommes constamment en train d'improviser. On n'y pense pas, mais c'est tout le temps. Là, quand je suis en train de parler, je suis en train de jouer avec la langue, mais je n'ai pas écrit le texte que je suis en train de vous dire, Ali Rebéi. De la même manière, quand je trace mon chemin en vélo pour venir. Je suis certes un peu en automate, mais je réagis au gré des interdictions, des rencontres. Et donc ça, c'est dans la vie quotidienne. Mais je dirais dans la vie, dans les grands moments de notre vie, les grands moments de rencontre, quand nous avons fait des grandes rencontres, que ça peut être amoureuse, un grand professeur, un grand livre, c'est pas des choses que nous avions planifiées par des process. Et il me semble que on ne fait pas assez place au fait que la vie, elle est en réalité bourrée d'improvisation. Et ce qui est le paradoxal dans l'improvisation, c'est que cette dimension qui est au cœur de notre vie, quand on nous dit improvise, là on est tétanisé, on ne sait plus le faire.
Dizzy Pourquery.
Il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est, vous savez, dans un morceau de jazz, on donne la mélodie, et puis tout d'un coup, ensuite c'est au soliste d'improviser. Et il y a un moment que je trouve magique, qui est le moment très fin, très très ténu, où on se lance. Et en fait, dans l'improvisation, il y a cette énergie de se lancer, qui est très importante, à mon avis, très importante en musique, évidemment, dans les aspects esthétiques, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi dans la vie quotidienne, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est là où tout le monde n'est pas égal dans l'improvisation, c'est que, surtout dans des périodes comme celles que nous vivons, il faut que nous retrouvions des sources d'énergie neuves, fraîches, et c'est pas évident.
Jeanne Chartier, sur cette question de l'énergie.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir le retour de votre invitée, Cécile Guéret, sur ce propos, parce que moi, j'entends souvent, que ce soit des professionnels de l'improvisation ou dans les ateliers que je peux donner, des gens venir avec beaucoup de peur, énormément de peur, de peur de la contrainte, peur de ne pas y arriver, peur de l'erreur aussi. À savoir que quand même, j'ai regardé l'improvisation à l'international et je pense qu'en France, on a quand même plus un problème de rapport à l'erreur très très fort qu'ailleurs. Et que donc, c'est un lâcher prise qui parfois prend du temps à venir, à se libérer et à trouver la joie. Mais quasiment à 100%, quand les gens viennent faire essayer des petits jeux d'improvisation, ils ressortent toujours avec une joie dans l'âme, le sourire aux lèvres, une envie de recommencer. Et moi, c'est vrai que je dis souvent que c'est un endroit de vie, l'improvisation, parce que malheureusement, pour la plupart, la société nous contraint dans des contraintes que dans lesquelles on ne trouve pas de plaisir, alors que dans cette contrainte-là du lâcher-prise, et effectivement, de sauter, de passer le cap, sans jugement, et avec l'encouragement même de ses partenaires de jeu, en ce qui me concerne, c'est un vrai bonheur qu'on a envie de recommencer, réessayer.
Cécile Guéret, on vous a enfin retrouvé. On avait un petit problème de liaison.
Oui, ce que je trouvais intéressant dans tout ce qui a été dit, c'est aussi comme on peut voir effectivement l'improvisation comme un processus de création. C'est-à-dire que en gestalt thérapie, qui est la thérapie avec laquelle j'accompagne en psychothérapie, on parle, nous, d'ajustement. C'est-à-dire une manière de s'accorder au monde. Et il y a toujours une part d'ajustement créateur, c'est-à-dire qui est d'adaptation, comme on disait tout à l'heure, et d'ajustement conservateur qui est plutôt de rester dans le familier, dans le bien connu, tout ce qu'on connaît déjà un petit peu. Mais si on regarde en termes de polarité, cette improvisation, elle peut pas être une création totale à partir de rien, parce que tout simplement on est situé dans le monde, donc on fait avec ce qu'on est et avec ce qu'on a, hein, c'est le principe de l'improvisation. On est modelé par un contexte culturel, économique, social, notre histoire personnelle, l'histoire du pays dans lequel on se situe, etc. Donc on doit faire avec les contraintes du réel. Et puis de toute façon, si on était dans une création totale, c'est aussi le risque de perte de contact avec le réel. Donc ça peut être très angoissant, ou même de perte du sens qu'on a de nous-mêmes. Donc c'est pas possible d'être dans la création totale, mais on peut pas non plus être dans l'agrippement à la répétition, à ce familier, comme je disais tout à l'heure, au trop bien connu, qui peut être enfermant, voire mortifère, quand il est trop figé et fixé. Donc c'est, je trouve, comment est-ce qu'on trouve chacun un petit peu cette souplesse entre ces deux polarités, pour une ouverture à l'inattendu et se placer exactement comme disait Jeanne Chartier à l'instant, dans le mouvement de la vie, c'est-à-dire vraiment dans le contact avec le monde, dans ce qu'il y a de singulier et de nouveau dans chaque situation qu'on vit, parce que chaque situation est différente.
Cécile Guéret, improviser peut nous enchanter ou alors nous angoisser. Nous ne sommes pas égaux face à l'improvisation. Pourquoi ?
Oui, parce que l'improvisation, il me semble, nous place face à une angoisse qui est celle du changement de notre identité. C'est-à-dire que l'improvisation, ça nous offre un potentiel de changement, ça nous permet de nous raconter autrement, donc d'être libre, hein, puisque exister, c'est changer. Donc on peut se découvrir autrement à l'occasion de cette situation singulière qu'on n'a jamais vécue auparavant. Donc c'est, comme je disais, se placer dans le mouvement de la vie, dans cette identité qui est toujours provisoire et qui est incomplète. Et ça peut être angoissant, parce que dans cette irrésolution de notre identité, d'une certaine manière, ça peut devenir, dans les moments où on peut être vulnérable ou fragile, ça peut nous faire vivre justement de l'instabilité ou de la fragilité ou de l'angoisse, parce que ça nous plonge face à un abîme d'incertitude. Et ce trop de nouveautés ou ce trop de surprises, ça peut nous faire perdre pied ou nous confronter au sentiment même presque de pas exister, hein, une vraie angoisse existentielle. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de nous raccrocher. Donc c'est l'autre pôle, hein, quand je parlais de polarité tout à l'heure. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de certitude, parce que ça nous rassure, ça nous réconforte. On est dans du connu, on peut se raccrocher aux branches un peu, d'une certaine manière. Parce que le lâcher prise, je trouve ça intéressant, cette expression qui est très à la mode, hein, du lâcher prise. Moi, j'imagine toujours, ok, le lâcher prise, mais enfin, faut-il encore savoir qu'on a un sol sous nos pieds quand on lâche une branche? Parce qu'il faut pouvoir s'appuyer aussi sur la sécurité du connu, du réel, en fait, hein. Ça, c'est, sinon, c'est trop angoissant.
Martin Legros.
Oui, en venant, l'hôtesse de Radio France me disait qu'elle avait été tétanisée dans son enfance parce qu'elle faisait de l'improvisation de théâtre, elle était terrorisée quand elle devait le faire, et que puis aujourd'hui, elle avait découvert à Radio Bleu notamment qu'elle y arrivait.
Ce qui me semble... On dit France Bleu maintenant.
Ah pardon, France Bleu. Ce qui me semble très important dans ce qui a été dit, c'est l'idée de la peur de l'erreur. Alors d'où vient, à mon avis, la peur de l'erreur? Elle vient de ceci, à mon avis, c'est le point décisif sur la question de l'improvisation, qui est à la fois esthétique et métaphysique, je dirais, c'est le fait qu'on se représente que dans les choses qu'on a à faire, il y a une manière parfaite et adéquate de faire les choses. C'est vrai, c'est-à-dire, il y a un modèle, un process, ça vaut dans les organisations, ça vaut partout. Si on part de ce point de vue-là, eh bien, ça veut dire que tout ce qu'on fera ne pourra qu'être une adéquation à ce modèle. Et ça remonte très loin. Quand vous pensez, l'art classique, il se définissait comme représentation, c'est-à-dire le monde est une perfection, et l'art a pour vocation de représenter cette perfection. C'est même dans la religion, Dieu crée le monde dans la Genèse, et puis il regarde et il dit, et il vit que c'était bon. Donc il y a l'idée d'un modèle auquel on doit se rendre adéquat. Et si on se dit qu'on va devoir inventer, on se dit, non mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, je peux pas. Donc on doit se conformer à un modèle. Et je crois que tout dans l'improvisation tient au fait qu'il faut lâcher prise, mais lâcher quoi? Lâcher l'idée qu'il y aurait quelque chose de parfait, qu'il y aurait une manière parfaite de faire les choses. Non, le monde est inachevé, est imparfait, et donc c'est à nous à le compléter.
Claire Destacan et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé, à la réalisation Stéphanie Texier, et on écoute Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy, choisi par notre programmatrice musicale Muriel Pérez.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde.
Laurent Voulzy interprétait Le pouvoir des fleurs.
Encore 5 minutes d'attention.
Non !
Grand bien vous fasse.
Et puis après, je vous raconterai l'histoire du zéro.
Pas question.
Et on se fait.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi aux vertus de l'improvisation avec le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Martin Legros, la thérapeute Cécile Guéret, le journaliste Didier Pourquerie et la comédienne Jeanne Chartier. Je vous propose d'écouter le musicien de jazz Éric Truffat, c'était dans Boomerang en 2015.
Et comment ça se passe une séance d'improvisation? Parce que je suppose que vous improvisez quand même à partir de quelque chose, Éric Truffat, non?
C'est comme si nous, on commençait à parler d'un sujet qu'on n'avait pas prévu. C'est la même chose.
Donc alors c'est un sujet ou alors c'est une ligne mélodique, un rythme.
Alors ça peut commencer une ligne de basse qui un riff de basse qui amène à quelque chose. Ça peut commencer sur une ambiance de piano. Ça peut commencer sur une mélodie de trompette. Voilà. Alors, ça, on cherche un peu comme quand on peut chercher dans le vide et tout à coup on trouve quelque chose. Mais parfois on trouve rien du tout et en tournant. C'est le risque.
On s'engueule aussi?
Bien sûr.
Musicalement ou alors vraiment?
Non, on s'engueule pas musicalement. Non.
Mais ça suppose quand même une grande ouverture d'esprit, y compris à des genres
et
des styles.
Oui, et puis d'accepter de rien trouver, c'est pas facile. Seul, c'est déjà pas facile, mais à quatre, c'est quatre fois plus difficile.
Éric Truffat dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Didier Pourquerie, je rappelle que vous avez publié chez Folio un petit éloge du jazz. Vous le disiez, pour qu'un joueur de jazz puisse improviser, il doit se reposer sur des bases solides. Pourquoi l'improvisation en jazz vous rend heureux?
Parce qu'en fait, c'est une création instantanée, surprenante. Y a un moment suspendu dans lequel tout peut se passer. On est à l'intérieur d'une mélodie, tout d'un coup, ça s'arrête. Et on est dans une autre dimension dans laquelle va se produire quelque chose, voilà, que seul le musicien va faire émerger. Alors, par rapport à ce que disait Éric Truffat à l'instant, il y a quand même un certain nombre de figures, de la même façon qu'il y a des figures de rhétorique, il y a des figures de l'improvisation que des grands solistes et des grands créateurs comme Éric Truffat ont intégré depuis toujours. C'est-à-dire le renversement, la citation, l'omission. Par exemple, on peut apprendre à improviser, on peut prendre quelques accords, les accords d'une mélodie de, je sais pas moi, par exemple des feuilles mortes. Et puis on se dit voilà, on a un sol majeur septième, et puis on prend la première note de chaque accord. Vous voyez? Paf, 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 paf. Ça, c'est déjà la première, puis la deuxième. Et là, on commence à avoir une petite improvisation, vous voyez. Donc, on enlève des notes. Ou alors, on fait de l'ornementation autour des notes. Ce que font les grands musiciens qui font des cadences autour de Mozart. On fait de l'ornementation. On fait des ajouts. Et puis aussi, on peut prendre, quand vous écoutez Coltrane ou Ornette Coleman, etc., on peut prendre des grandes envolées hors tout, je dirais, hors tout, mais qui, à la fin, retrouvent la mélodie.
Et vous écrivez joliment, le jazz, c'est une musique libre. Au moment où l'on croit la tenir enfermée dans un format, dans un contrat, dans un cliché, dans une boîte de disques, elle bourgeonne ailleurs, elle s'échappe, elle casse les codes, va plus loin. Cécile Guéret.
Oui, je trouve aussi.
Je rappelle que vous êtes thérapeute.
Dans cette question de l'improvisation, je trouve qu'il y a un peu une ouverture au possible. C'est-à-dire que, comme disiez à l'instant Monsieur Pourquerie, c'est vraiment un temps suspendu. C'est-à-dire qu'on accepte de rester un peu en suspens par rapport à ce qui advient. On est dans l'incertitude de ce qui va suivre, qu'on va pas pouvoir définir tout de suite, et le sens de ce qu'on fait nous échappe un petit peu au moment de l'improvisation. Et on sort de ce déterminisme temporel. On est simplement présent à ce qui est en train de se créer à ce moment-là. Et c'est là où je crois qu'on parlait que tout à l'heure de la question de l'anxiété, hein, que pour certains ça peut être effectivement assez anxiogène. Parce qu'il me semble qu'il faut effectivement avoir une base suffisamment sécure, en tout cas être suffisamment assuré tranquille, je dirais, que le fait que même une surprise désagréable ne va pas nous détruire et qu'on peut s'aventurer. Parce que sinon, il y a le risque que l'improvisation nous fasse violence, qu'on peut être dans l'effroi, dans la stupeur, dans la sidération. Enfin, il peut y avoir quelque chose d'inassimilable. Alors que lorsqu'on se sent suffisamment stable et sûr, et qu'on a l'expérience que cette étape va être transitoire et que ça va ouvrir sur autre chose, quelque chose, mais on ne sait pas quoi encore, alors là, on peut se permettre l'improvisation et il peut y avoir du plaisir en plus. Donc ça, c'est encore mieux.
Martin Legros de Philosophie Magazine.
Oui, je retiens aussi dans les mots d'Éric Truffaz, il y a le possible, vous le dites, mais il y a aussi, je crois, la présence. Il dit, ça peut partir de n'importe quoi, de ce que fait la contrebasse, il écoute le présent, il se rend disponible au présent, il abandonne les projections, les anticipations d'une grille qui serait préétablie, et il se met à disposition du présent. Et c'est quelque chose que, j'imagine que vous ne me contrerez pas, monsieur Procori, sur l'histoire du jazz. Tous les grands jazzmen ont souvent eu, Raphaël Imbert a montré ça dans un très beau livre, un rapport au spirituel. Et pourquoi ? Parce que précisément, il faisait, ça peut être la Bible, ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être le bouddhisme, ça peut être l'islam. Beaucoup ont eu un rapport au spirituel ou un spirituel sauvage. Et pourquoi, dit Raphaël Imbert ? Parce que dans l'improvisation, on fait l'expérience au présent d'une intensité et d'une créativité, mais parce que nous nous rendons disponibles pour le présent. Et il y a quelque chose d'un développement du présent, d'une écoute au présent, d'une présence au monde inouïe par la création. Et c'est ça le paradoxe de l'improvisation, c'est que je crois que tous les créateurs le disent, c'est que ils ne sont pas en train de simplement de façonner quelque chose de nouveau. Ils se mettent à l'écoute et ils font l'expérience. Ils sont tirés eux-mêmes par ce qu'ils sont en train de faire.
Michel, interprété Fayot.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi aux vertus de l'improvisation avec le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Martin Legros, la thérapeute Cécile Guéret, le journaliste Didier Pourquery et la comédienne Jeanne Chartier. Jeanne Chartier, je rappelle que vous êtes comédienne et improvisatrice. Quels sont les outils d'improvisation théâtrale que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous avez quelques jeux ou quelques techniques que l'on peut mettre en œuvre à la maison, en famille, entre amis?
Bien sûr, il y a énormément de jeux qui existent. Hein. Si je vous en donne là, ce sont simplement une infime partie, parce qu'évidemment, avec les années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées. Mais je reviendrai, je pense, sur cette idée qu'évoquait Martin Legros tout à l'heure, sur le fait qu'on improvise tout le temps, toujours, au quotidien, que ce soit quand on se dit « qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir ?» Donc en fait, c'est la même notion pour tous les jeux qu'on a envie de faire. Et particulièrement, je pense à ces parents qui ont du mal à endormir leurs enfants le soir. Il y a un petit jeu qui peut être très très rigolo à faire sans aucune pression, c'est le « devine mon histoire ». Donc tout simplement, on dit à son enfant ou à ses enfants, j'ai inventé une histoire et tu dois deviner ce qu'elle dit. Et donc l'enfant va poser des questions et à chaque fois qu'on a envie de répondre oui ou non, on peut se donner par exemple une bascule sur le oui ou le non, sur à chaque fois que lui va hésiter dans sa proposition, je vais dire que c'est pas ça. Et à chaque fois qu'il ou elle va me dire que c'est une bonne proposition, enfin que l'idée semble l'enchanter, eh bien on dira oui. C'est tout à fait ça, mon histoire parle de ça. Ça peut être très intéressant. Autre chose, et là je pense aux gens qui justement seraient terrorisés à l'idée de se lancer dans l'improvisation, il y a un très très bon exercice pour soulager son lâcher prise, donc, dont on parlait, et c'est le jeu du 8 choses. Donc tout simplement, on est en groupe d'amis autour de la table, à un dîner, et on dit, ok, Stéphanie, tu vas devoir nous donner 8 choses qu'on trouve dans une voiture. Allez, c'est parti sans réfléchir. Et donc le groupe va compter de 1 à 8 tous les éléments qui seront donnés, et ça encourage aussi à ne pas avoir peur de cette fameuse erreur qu'on a tendance à ressentir comme quelque chose de mauvais, alors qu'en fait c'est juste un cap à passer, sortir de sa zone de confort en étant accompagné.
Tiens, je vais jouer avec Martin Legros de Philosophie Magazine. Tiens, qu'est-ce qu'on trouve dans un tiroir de bureau? Allez.
Des chocolats.
2. 3.
Des gommes.
4. 5.
Du papier.
6.
Des mots d'amour.
7. 8. On trouve des gommes dans votre tiroir. Oui, très bien, formidable. Voilà, on peut jouer à ça entre amis. Tiens, j'aimerais vous soumettre quelques interrogations. Pourquoi on ne s'invite plus à l'improviste chez des amis ou dans la famille? C'est devenu rare. Martin Legros, en dehors de la crise sanitaire, si je sonnais chez vous à 20h à l'improviste, vous seriez peut-être agacé, surpris, mais pas forcément heureux de me voir débarquer à l'improviste. Oui, pourquoi on ne s'invite plus à l'improviste pour dîner? Voilà, Didier Pourquerie, comment vous l'expliquez ça?
Oui, je sais pas. Moi, je partage ma vie entre le sud Gironde et Paris. Et c'est vrai que ça se fait un peu plus à l'heure de l'apéro.
Comme par hasard.
Ben oui, parce que l'apéro, voilà, on peut se rencontrer, on peut dire salut, tu viens, allez, reste là, reste là. Ou on vient chez les copains avec une bouteille en disant, dis donc, t'as goûté ça, tu vas m'en dire des nouvelles. Ben rentre, on va faire là, on se rend foie gras et puis on se démerde.
Martin Legros.
J'ai pas de réponse, c'est une vraie énigme. C'est vrai que moi, enfant, chez moi, ça circulait, ça défilait le week-end, le soir, les gens passaient. J'ai l'impression peut-être que les vies sont, comme les individus sont moins ancrés dans des territoires, peut-être qu'ils sont déliés et que donc leurs connaissances sont récentes, peut-être, je sais pas, j'ai pas d'explication.
Et est-ce qu'il vous arrive de voyager à l'improviste, de découvrir une ville en improvisant votre parcours, de vous perdre dans les méandres d'une ville, ou alors est-ce que vous organisez des fêtes à l'improviste?
Alors la question de la fête, je trouvais très intéressante. On a tous fait l'expérience du fait que les fêtes très organisées, très anticipées étaient souvent loupées, alors que les fêtes improvisées le jour même étaient souvent très réussies. Et donc j'ai réfléchi à ça, je me suis dit mais dans le fond, à quoi ça tient? Ça tient peut-être à quelque chose de très profond qui est plus que de la psychologie, c'est le fait que dans la vie, quand on anticipe quelque chose, on est nécessairement, plus on anticipe une chose, peut-être plus on est déçu par sa réalisation. Alors qu'une fête improvisée, on l'a pas anticipée et donc on peut pas avoir de regrets. C'est un peu ce que les épicuriens disaient, c'est-à-dire abandonnons notre crainte de l'avenir et notre regret du passé et soyons présents. Eh bien l'improvisation, c'est une manière d'être au présent qui n'est pas abîmée, enlisée par les attentes du futur ou les regrets du passé, et donc on est plus au présent parce qu'on l'a improvisé.
Et oui, Cécile Guéret, ce qui est beau dans les fêtes à l'improviste, les dîners à l'improviste, c'est cette ouverture au présent, au tout est possible.
Oui, effectivement, c'est cette ouverture qu'on pourrait qualifier de kairotique, hein, pour faire référence à ce dieu grec Kairos, qui est celui de l'instant propice. C'est ce jeune homme ailé coiffé d'une seule touffe de cheveux et qu'il faut attraper quand il passe. Alors, il faut pas se louper parce qu'il passe vite. Il incarne comme ça l'opportunité. Et c'est vraiment effectivement le temps du changement, de l'ouverture des possibles. Et ce que je trouvais intéressant aussi par rapport à cette question de est-ce qu'on improvise finalement moins aujourd'hui qu'auparavant. Moi, je m'étais penchée sur cette question-là, autour de la question de la rencontre amoureuse. Mmh. Et ce qui était apparu, c'est que on est tellement en fait pris dans des scénarios préétablis, un peu des fictions sur l'amour, en fait, des sortes de recettes qu'on a tout en permanence par la publicité, le cinéma, la littérature et tout ça, que finalement, comme on le disait à l'instant, on est dans une image idéale, un petit peu de la rencontre amoureuse, donc inatteignable, et il y a ce risque d'insatisfaction. C'est-à-dire que, du coup, la réalité de la rencontre amoureuse, qui est en général rarement là où on l'attend, ben, elle risque de tomber à côté. Et c'est un peu ce qu'on disait, pour raccrocher avec ce qu'on disait tout à l'heure des fêtes improvisées. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on est moins dans une élaboration à l'avance de comment sera la fête, et ben peut-être on peut plus s'ouvrir à cette possibilité de la spontanéité et de ce moment kairotique qui apparaît et qu'on saisit quand il passe.
Jeanne Chartier.
Oui.
Vous êtes une habituée des dîners à l'improviste, des fêtes à l'improviste.
Ah, voilà, j'allais dire, je ne peux être que d'accord avec tout ça, effectivement. Comme c'est un peu comme un sportif qui s'entraîne tous les jours, quand on improvise tous les jours, tout devient plus facile à l'improvisation. Mmh. Et donc, on l'étend à sa vie. Je dirais pas non plus que j'en fais une philosophie, voilà, c'est que ça reste un art théâtral pour moi, mais j'y apprends tellement et j'y expérimente tellement de choses agréables qu'effectivement ça donne envie. Et ça m'arrive jamais, presque aujourd'hui, de faire un dîner prévu ou une soirée prévue. Tout est toujours improvisé parce qu'on est avec des gens qu'on aime bien, on a envie que la soirée continue. Bah, c'est pas un problème. On n'a peut-être pas tout prévu pour le dîner, on n'a peut-être pas assez de chaises, mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'il y a et ce sera très bien. On le vivra bien.
La vie est belle. Mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc votre tour pour manger. Se régaler. Amis, vos tours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
aînés. S'ils sont tombés, nous allons remonter.
La vie est belle.
Nous allons remonter.
Mais c'est pas
et Nicolas Giraud interprétait La vie est belle.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi aux vertus de l'improvisation avec le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Martin Legros, la thérapeute Cécile Guéret, le journaliste Didier Pourquery et la comédienne Jeanne Chartier. Je vous propose d'écouter le philosophe Robert Bourgne sur France Culture.
La pensée procède par construction des sens. Mais la pensée n'existera pas par décision de la pensée qui passe de l'essence à l'existence. Et ça, c'est essentiel pour l'homme. C'est pour ça que l'imprévisible est au cœur de l'homme. Et c'est pour ça que tout ce que nous prévoyons et que nous programmons, nous sommes à la programmation, pour arriver, va manquer l'existence. Les mondes virtuels sont des mondes illusoires, radicalement illusoires. Cette prospective qui veut prévoir au nom de la prévisibilité, de la décision, de la rationalité, prévoir avant que la chose s'effectue, quitte l'existence, voilà le leurre. Alors, l'extériorité pure de l'existence fait que l'imprévisibilité, c'est pas qu'on ne peut pas prévoir, c'est que tout ce qu'on prévoit, même si cela arrive, est faux. Je prévois ma mort, bien sûr, mais elle n'arrivera pas comme je la prévois. C'est, l'existence reste intrinsèquement imprévisible. Il n'y a pas un pas dans l'avenir qui devance le présent.
Le philosophe Robert Bourgne sur France Culture. Votre regard, Martin Legros, rédacteur en chef adjoint de Philomag.
Oui, ça nous fait toucher à une dimension que je trouve fondamentale, qui est-ce que l'improvisation serait plus que simplement des artifices que nous créerions, mais le monde lui-même serait une vaste improvisation. Le réel lui-même, le vrai réel, pas nos constructions fantasmatiques, pas nos projets, pas nos process, nos modèles, le monde lui-même serait une improvisation. Et la question mérite d'être examinée, parce que c'est vrai qu'on est dans une culture créationniste, c'est-à-dire on a l'image du Dieu créateur. Eh bien, Descartes déjà se demandait, et si le monde était une création continuée? C'est-à-dire que ça s'est pas fait en 7 jours ou en un moment, mais ça continue de se faire. Et si on admet l'idée de la création continuée, on peut se dire, mais peut-être que le monde n'est pas simplement régi par des lois fixes qui ont été déterminées à l'origine, mais que, au sein de ces lois, il y a en permanence des rencontres entre des éléments. Et ça rencontre cette question métaphysique, c'est-à-dire le monde est-il non pas des lois fixes et immuables, mais de l'improvisation. Et ça rencontre un souci écologique contemporain très vif, moi je me suis rendu compte de cela, chez les géographes notamment, on a consacré un papier là-dessus, avec un entretien avec Frédéric Aït-Touati, qui fait des nouvelles cartes, et elle dit nos cartes sont habitées par le fantasme cartésien d'un monde à plat, d'un monde inerte, regardez même les cartes Google Maps, c'est l'homme et un espace vide. Et elle essaie de mettre en représentation les vivants qui habitent sur les territoires. Et de donner à vivre, quand vous déplacez dans un espace, de voir quels sont les vivants qui cohabitent avec vous. Et ces vivants, eux-mêmes, agissent et improvisent. Et donc, dans notre représentation du monde, aujourd'hui, on est en train de voir émerger une nouvelle représentation d'un monde qui serait improvisé, avec du vivant. Et un vivant, nous ne sommes pas les seuls improvisateurs. Le monde lui-même est peut-être une improvisation.
Et je renvoie à votre article dans Philomag, Louis Armstrong a-t-il provoqué le Big Bang? Très beau titre. Bonjour Alexandre, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous êtes chef d'entreprise dans la communication, c'est ça?
Exactement, je suis publicitaire. Je suis publicitaire. Je voulais témoigner parce qu'en fait, je me suis aperçu après 20 ans de carrière dans ce métier-là, que mon métier, c'était 100% de l'improvisation. Si vous voulez, nous, on a des idées et on est en face des clients qui sont complètement fermés. Et mon job, c'est de leur vendre des super idées avec une théâtralisation toujours plus intense. Et en fait, l'improvisation m'aide beaucoup parce qu'on peut réagir à la réaction de notre client qu'on a en face. Idée très mauvaise, client fermé, tout s'effondre, comment réagir et continuer à vendre son projet. Et là, l'improvisation joue un rôle extrêmement fort. Je m'en suis servi tout le temps. Tous les jours, on dit qu'on va on stage devant le client. Et je voulais savoir finalement, puisque je suis un grand feignant dans l'âme, je voulais savoir si finalement l'improvisation ne serait pas la solution professionnelle à un certain type de fainéantise pour les gens qui n'ont pas vraiment envie de préparer les choses et qui s'en remettent à leur confiance en soi et à l'improvisation en live.
Tiens, ça tombe sur vous, Cécile Guéret. Je rappelle que vous êtes thérapeute.
Merci. Alors oui, je trouve ça rigolo la manière dont Alexandre le présente. Ce qu'on pourrait dire, c'est que d'une certaine manière, la santé psychique, c'est la souplesse. C'est-à-dire, c'est la capacité à aller vers l'environnement sans avoir trop peur, sans trop de crainte. Et donc, c'est ça qui permet l'enrichissement des possibles. Et alors, peut-être il y a une part de fainéantise, mais en même temps, j'ai quand même du mal à croire qu'il n'y ait que de la fainéantise, parce que j'imagine que derrière, il y a quand même aussi du travail, même si c'est pas forcément du travail immédiat, mais je crois que, en fait, notre manière d'être en contact avec l'environnement, elle peut pas être figée, parce que forcément, les situations ne sont jamais identiques. C'est ce que dit Alexandre en fonction de la réaction des clients. Et je crois que c'est là où on peut regarder l'improvisation plutôt comme un processus, c'est-à-dire que c'est vraiment au fur et à mesure des contacts avec l'environnement, donc la réaction des clients par exemple, mais c'est aussi, je sais pas, l'eau dans laquelle on se baigne quand on se baigne l'été, ou l'air qu'on respire, enfin tous les contacts avec l'environnement, et c'est au fur et à mesure de ces contacts que la différenciation et la perception de nous-mêmes comme individus s'opèrent. Et c'est pour aussi reboucler sur l'extrait audio que vous mettiez tout à l'heure, je crois que c'est là aussi une manière dont on peut s'approprier d'instant en instant qui nous devenons. Donc je crois qu'il y a aussi quand même une dimension existentielle dans cette possibilité de l'improvisation.
Allez, pour terminer, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Comme si vous étiez sur France Musique en juillet 2014. Ça va faire plaisir à Didier Pourquery.
Le 24 janvier 1975, à l'Opéra de Cologne, Keith Jarrett est d'une humeur massacrante. Il a peu dormi et surtout, il est très énervé par la qualité du piano sur lequel il doit se produire ce soir-là. Alors jusqu'à la dernière minute, il pense annuler le concert, tant pis pour le public. Et puis, finalement, il se traîne quinca jusqu'au piano, tandis que la sonnerie de la salle retentit, indiquant aux spectateurs qu'ils peuvent gagner leur place, que le concert va commencer. Que fait alors Keith Jarrett ? Il s'assoit de guingois sur son tabouret et, ironiquement, reprend les quatre premières notes de la sonnerie sur son piano. Oui, vous avez bien compris, il se met à imiter la sonnerie de la salle de l'Opéra de Cologne en guise d'introduction. D'abord, ça fait bien rire le public. Mais bientôt, plus question de rigoler. Le public est happé. Happé par les vertiges dans lesquels Keith Jarrett l'emmène.
Didier Pourquery, comment s'inspirer de Keith Jarrett dans nos vies, là, en ce moment ?
Là, à l'instant, parce que moi, je suis obsédé par l'improvisation collective et l'écoute de l'autre. Et là, bon, bien sûr, Keith Jarrett, c'est l'anti-exemple total, puisque c'est le soliste total, enfin, même s'il a beaucoup joué en trio, bon, bref. Il a écouté quelque chose qui était dans son environnement, la sonnerie, et il en a fait quelque chose. Moi, je trouve que la clé de l'improvisation, c'est l'écoute. Et c'est l'ouverture. Alors, moi, je suis obsédé par cette idée de curiosité de l'autre et d'ouverture à l'autre. Mais je pense que pour bien improviser, sauf si on s'appelle Keith Jarrett, eh bien, il vaut mieux être en commun, il vaut mieux être ensemble.
Martin Legrand, quelques mots, mot de conclusion.
Oui, moi je dirais simplement un peu dans le même sens, mais c'est aussi l'idée, on en parlait, pourquoi est-ce qu'une fête improvisée est réussie ? Pourquoi ? Parce qu'on se saisit de ce qui est sous la main pour en faire quelque chose. Et donc c'est la présence, mais l'idée non pas de vouloir absolument des choses idéales, c'est se saisir de l'instant et de ce dont on a sous la main pour en faire quelque chose.
Le mot de la fin, Jeanne Chartier.
Oui, ben moi j'ai l'impression que tout ce qui a été dit aujourd'hui, ça m'encourage encore plus à penser que l'improvisation devrait être ajoutée au programme scolaire, parce que on punit beaucoup l'erreur et on encourage peu l'expérience. J'ai l'impression que ça reste quand même vital. Donc voilà, ce sera mon dernier mot.
Cécile Guéret.
Oui, j'ajouterais que je crois que c'est aussi ne pas se mettre une contrainte de perfection. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois, comment chacun on peut trouver le bon équilibre pour élaborer son petit mélange à soi d'improvisation face à l'inédit de la situation, mais avec du familier. Parce que ça peut aussi être déjà très fatigant. Mais c'est, voilà, regardez ça avec tendresse. Comment parfois on peut improviser, puis parfois c'est pas possible et c'est pas grave. Et comment on s'y prend pour naviguer entre l'improvisation et le familier.
Merci à tous d'être intervenus dans Grand Main vous fasse. Merci Martin Legros, Cécile Guéret, Didier Pourquerie et Jeanne Chartier. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur l'appli France Inter. Demain, ce que nos mots racontent sur nous et sur notre époque.